Je vous invite à prendre les deux versets qui relatent l'ascension du Seigneur Jésus, donc 40 jours après sa résurrection. Après avoir dit cela, après avoir dit à ses disciples, je vais vous envoyer l'Esprit Saint, et grâce à l'Esprit Saint, vous irez partout sur la terre annoncer ma parole. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs, pendant qu'ils le regardaient, une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Il y a une promesse déjà, c'est que Jésus va revenir de la même manière dont il est parti. Je ne suis pas vraiment certain qu'il y ait encore beaucoup de gens qui croient ça, mais ça fait partie de la foi chrétienne. Alors je vous ai dit qu'il y avait des implications pratiques au fait que notre Seigneur ne soit plus physiquement avec nous, mais que depuis quasi 2000 ans maintenant, il est retourné à la droite de son Père dans le lieu céleste. Je vous ai énuméré en fait 5 implications qu'on va essayer de développer ensemble et sur lesquelles nous allons essayer de réfléchir. Je n'irai pas trop loin dans le développement parce que chacun d'entre eux pourrait franchement faire l'objet d'un message et ce serait trop long. Mais je vous les énumère d'emblée. Le fait que Jésus soit assis à la droite de la majesté divine dans le ciel signifie que l'œuvre accomplie à la croix est parfaitement acceptée par le Père. Ce que Jésus accomplit à la croix, le fait qu'il soit retourné à la droite de son Père, signifie pour nous que l'œuvre de Jésus a été acceptée par son Père. C'est une bonne nouvelle pour nous. Dans le cas contraire, nous serons toujours dans les mêmes problèmes que nous avions dans notre péché, entre autres, avant que Jésus ne vienne. Deuxièmement, que notre Sauveur intercède, qu'il prie pour nous, auprès du Père, comme un parfait et doux grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Troisièmement, que comme promis aux 12, après son départ, le Consolateur, l'Esprit Saint, est venu et a fait son habitation en nous et nous conduit dans toute la vérité concernant Dieu. Quatrièmement, que Christ reviendra très bientôt de la même manière qu'il est parti pour établir son royaume, définitivement. C'est aussi une bonne nouvelle, du moins j'espère. Et enfin, cinquièmement, qu'en attendant, nous n'avons pas à rester le nez vers le ciel, à regarder comme ça, mais à travailler pour sa gloire, pour lui, pendant son absence. Rappelez-vous le nombre de paraboles que Jésus a enseignées durant son ministère qui font référence au fait qu'un jour, sans crier gare, il sera de nouveau là. Et il dira, d'ailleurs ça fait un peu peur, enfin moi en tout cas ça me fait réfléchir, arrangez-vous, je paraphrase, arrangez-vous pour être éveillé spirituellement quand je reviendrai. À ne pas vous occuper de vos affaires, mais des miennes quand je reviendrai. Donc ces 5 vérités, c'est biblique, on va voir, hein, sont des bonnes nouvelles. Quand je regarde vos têtes, je ne suis pas persuadé. Mais bon, normalement, Jésus revient, c'est une bonne nouvelle. Hein. Sauf si on se plaît vraiment bien ici, qu'à la limite, on n'a toujours pas compris qu'ici, on avait un léger problème. Donc jeudi, je l'ai dit, hein, nous avons fêté l'ascension. Et je crois que ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que l'on ait un calendrier liturgique pour nous, justement, que nous ayons des bornes dans nos vies pour nous rappeler les grands pans de l'enseignement de Jésus, les grands pans du christianisme et du contenu de notre foi. Si on fêtait pas Pâques tous les ans, pas l'Ascension, pas la Pentecôte, je suis quasi persuadé à titre personnel qu'on finirait par oublier tout ça. On n'y réfléchirait plus. Ces jours ne sont pas seulement, même si c'est agréable, des jours fériés légaux qui finiront par disparaître, croyez-moi. Puisque je l'ai dit, nous sommes en phase terminale de déchristianisation de nos sociétés occidentales. Alors c'est quoi l'ascension? Eh bien, d'après les deux versets que nous avons pris dans le livre des Actes, c'est, semble-t-il, l'histoire d'un départ et d'un retour annoncé. Jésus dit « je pars », apparemment il est parti, « mais je reviendrai ». Je me dirais, ça fait 2000 ans qu'il est parti, il met du temps à revenir. Rappelez-vous que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Il vit dans un espace-temps où le temps, justement, n'existe pas, où le temps est plus que relatif. La bonne nouvelle aussi pour nous, c'est qu'il n'est pas seulement parti à la droite du Père pour faire décoratif, comme une statue sur une cheminée, mais bien pour y remplir une fonction. Au moment où je parle, Jésus fait quelque chose. Il intercède. Il est l'interface entre nous et notre Père. Sans compter que... Excuse-moi, je me suis trompé là. Tu peux mettre le premier point, s'il te plaît là. Excusez-moi, je me perds un peu dans mes notes. Donc je reviens à la première application pratique. Le fait que Jésus se soit assis à la droite de la majesté divine dans le ciel signifie que l'œuvre accomplie par le Christ à la croix est parfaitement acceptée par le Père. Dans la première épître de Paul à l'église de Corinthe, en Grèce, l'apôtre dit que la résurrection de Jésus est le gage, le garant de notre propre résurrection. Paul dit, puisque Jésus est ressuscité, c'est la garantie absolue que vous serez aussi ressuscité. C'est pareil. C'est un peu la même implication quant à l'ascension. Parce que Jésus est assis au moment où je parle à la droite de Dieu le Père dans les lieux célestes, Jésus nous assure une position éternelle avec Dieu puisque son œuvre pour nous a été acceptée par le Père. C'est pour ça que Paul, dans une autre épître aux Éphésiens, dira que nous sommes d'ores et déjà assis avec Jésus dans les lieux célestes. C'est une garantie, c'est un cachet. C'est sympa, non ? Donc, pour le dire plus simplement, grâce à cette position de Jésus à la droite de Dieu le Père, nous sommes assurés de passer l'éternité dans la présence de Dieu. On va passer un peu de temps dans l'épître aux Hébreux. Puisque c'est dans l'épître aux Hébreux, c'est une épître que beaucoup de chrétiens détestent, ne lisent jamais parce que c'est trop compliqué ou trop dense ou il y a trop de judaïsme dedans. Mais si vous voulez comprendre le rôle que joue Jésus au moment où je parle, il faut lire l'épître aux Hébreux. Vous n'avez pas comprendre grand-chose de son rôle aujourd'hui. Hébreux 9, 24. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, donc dans une simple copie du véritable, mais il est entré comme le tabernacle ou le temple pouvait l'être. Mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Pas pour lui, pas vraiment besoin, puisque toute éternité, il est Dieu. Il est fils de Dieu. Mais pour nous. Donc, il est rentré non pas dans un sanctuaire, un lieu saint, fait par la main de l'homme, donc je l'ai dit, comme le tabernacle que Dieu a demandé à Moïse de réaliser, ou plus tard le temple construit par Salomon. Il est rentré dans le vrai sanctuaire. C'est pour le dire plus simplement, le lieu où Dieu, dans sa plénitude, habite. Il est entré, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour nous. Ça veut dire en tant que représentant de la nouvelle humanité, créant Jésus. Donc, le Christ a fait entrer l'homme nouveau, recréé en lui, dans la présence de Dieu. Lui qui est le premier-né de cette nouvelle humanité est donc le gage, le garant que nous passerons nous aussi dans la présence de Dieu. Parce que, je vous rappelle quand même que si Dieu ne nous voyait pas parfaits à travers son Fils, nous ne pourrions jamais être présents dans la présence de Dieu même, qui est pur esprit, parce que nous ne pourrions pas rester en sa présence, nous serions détruits. D'accord ? Donc cette phrase de Paul à ses frères et sœurs d'Éphèse que j'ai citée tout à l'heure, « Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble le lieu céleste en Christ », tout ça ne serait pas possible si le Christ n'était pas d'ores et déjà à la droite de Dieu, dans le lieu céleste. Notre vie est donc déjà manifestée dans la présence de Dieu, par et au travers de la présence de Jésus. Toute la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, tend vers ça, affirme ça progressivement, avec de plus en plus de force. Ça veut surtout dire aussi que dans ce monde qui devient de plus en plus écuménique, on dit que tout se vaut et tout est égal, nous avons fait, entre guillemets, le bon choix. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il est le seul à la droite du Père. Donc, il n'y a pas Mahomet à la droite du Père, il n'y a pas Bouddha, il n'y a pas Shiva, il n'y a pas Krishna, il y a Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est le seul sauveur. Ok ? C'est de la doctrine, hein. Je sais bien que c'est barbant parfois, mais en fait, de temps en temps, il faut repasser les plaques quand même. C'est important de pouvoir, parce qu'un jour, vous allez peut-être croiser quelqu'un qui a un cerveau, qui va poser des questions un peu précises sur votre foi, et si vous ne savez pas un peu expliquer le contenu de votre foi, vous allez être mal, me semble-t-il. La position de Christ signifie également qu'il intercède pour nous auprès du Père comme un doué, parfait grand prêtre. On va peut-être prendre un peu de temps sur celle-là, parce que c'est super important pour notre vie pratique. Et on va prendre un autre texte dans Hébreux. Hébreux 4. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. En gros, on a accès au trône de Dieu. Alors dit comme ça peut paraître... j'ai accès au trône de Dieu. Vous n'avez pas accès au trône du roi Philippe, hein? Par exemple. Encore moins au trône d'Angleterre. Nous avons accès au trône de Dieu parce que c'est un trône de grâce. Donc ce qu'affirme ce texte, c'est que non seulement Jésus occupe d'ores et déjà une position d'autorité, puisqu'il est à la droite de Dieu, mais qu'en plus, il a toujours une position de service. Autrement dit, il n'est pas là simplement pour admirer le paysage. « Ouais, ça m'a manqué, mon royaume, oh, c'est quand même magnifique, les anges qui chantent, les trompettes et tout ça. » Non, non, il fait quelque chose. On prend un autre texte en hébreu. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge, donc le fait d'être grand prêtre, à moins d'être appelé par Dieu, comme l'a été Aaron. Aaron, le frère de Moïse, qui avait été choisi par Dieu pour être le premier grand prêtre de la nation d'Israël. Rappelez, Ancien Testament. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours » à la manière de Melchisédek. Revoyez le Melchisédek, ce personnage mystérieux. On le cite trois fois dans toute l'Écriture, en fait. Quelqu'un peut me dire dans quel texte on cite Melchisédek ? Genèse 14-18, c'est facile, hein, pensez à la guerre, 14-18. Genèse 14-18, paf ! Moi, ouais, mémotechnique. Un verset, non, deux versets. On parle de Melchisédek, il y a le psaume 110, et alors forcément, il y a l'épître aux Hébreux où on en parle à foison. Alors, je sais que nous ne nous rendons souvent pas compte de la chance, ou pour employer un mot biblique, de la grâce qui nous est faite, que nous avons, de pouvoir rentrer en présence de Dieu. Et si je dis ça, c'est parce que justement, quand on s'en rappelle, dans l'Ancien Testament, le seul qui, une fois par an, pouvait rentrer dans la présence de Dieu, c'était le grand prêtre. C'était le seul, une fois par an. Et avec les pépettes, parce qu'il devait sacrifier pour son propre péché, demander pardon pour son péché et pour le péché du peuple. J'ai déjà dit, mais à l'époque, et c'est avéré aujourd'hui, on lui cousait des clochettes en bas de sa robe au grand prêtre. Ce fameux jour du grand pardon, du Yom Kippour, où il devait rentrer dans le lieu très saint où était symboliquement la présence de Dieu pour demander pardon. Pourquoi on mettait des clochettes ? Parce que tant qu'on entendait les clochettes, on savait qu'il était vivant. Si on n'entendait plus les clochettes, il avait une corde nouée à son... Et on disait, ben, c'est qu'il n'était pas assez bon pour Dieu et que Dieu l'a tué. Et on tirait le grand prêtre en dehors du lieu très saint, parce que personne d'autre pouvait mettre un pied. C'est pour vous expliquer la complexité et la séparation qu'il y avait entre Dieu et les hommes. Hein. D'accord ? Donc quand l'auteur de l'Épître dit « Vous avez accès au trône de Dieu », c'est plus besoin de mettre des clochettes. Quand on dit « Mon fils, hein, Dieu te bénisse, mon fils, ma fille, te voilà. » Ça fait tellement longtemps que je t'attends, ça fait deux jours que je ne t'ai pas vu. Voilà, parce qu'on ne prie pas, enfin soit. Mais c'est un privilège extraordinaire. Hein. Mon père de vue ce privilège. Passer du temps avec Dieu, c'est une corvée aujourd'hui, pour la plupart des chrétiens. Alors que c'est un privilège immense, immense. Donc, il y a un parallèle à faire, jusqu'à un certain point, entre Jésus comme grand prêtre et le grand prêtre de l'Ancienne Alliance. J'ai bien dit jusqu'à un certain point. Le grand prêtre de l'Ancienne Alliance, il était choisi par Dieu. Dieu a choisi la tribu de Lévi, une des 12 tribus d'Israël. Il a dit, c'est de cette tribu-là que je tirerai les grands prêtres, de la lignée d'Aaron, le frère de Moïse. Et Jésus a aussi été choisi par Dieu comme grand prêtre. Mais la comparaison s'arrête là. Car au niveau de la filiation, à ma connaissance, aucun prêtre ou aucun grand prêtre de l'Ancien Testament n'a jamais porté le titre de fils de Dieu. Rappelez-vous, je t'ai engendré aujourd'hui. Concile de Chalcédoine, 451. Le Fils est engendré, non pas créé. Rappelez, je vais vous donner une image pour expliquer ça. Si vous faites de la poterie, vous fabriquez un vase, le vase est votre création. Si vous faites un bébé, ça n'est pas votre création. Il est de la même nature que vous. Vous l'avez engendré. Donc dire ça ou dire que le Fils, donc que Jésus est Dieu, c'est la même chose. Parlons maintenant relation avec Dieu, proximité, position. Le grand prêtre issu de la lignée d'Aaron, le frère de Moïse, pouvait entrer donc dans le lieu très saint une fois par an pour présenter le sacrifice pour le péché du peuple. en dehors de ça, ce fameux grand prêtre, il n'avait aucun privilège particulier, à part qu'il était bien vu par les Juifs, forcément. Parce qu'il y avait une fracture, le voile. Je suis Dieu, vous êtes des pécheurs, vous ne pouvez pas entrer en ma présence, je vous l'interdis. C'est donc la signification du voile séparant le lieu saint du lieu très saint. Voilà le voile dans le temple. En peau de dauphin, le voile, dans le tabernacle. Donc c'est de l'épée. Hein. Peau de dauphin, c'est... Voilà. Donc le message de la disposition des lieux dans le tabernacle, dans le désert ou dans le temple, c'est « je vous aime », c'est ce que Dieu dit, « et parce que je vous aime, je vous invite dans la première partie de mon sanctuaire. » Là, les prêtres peuvent rentrer, tous, hein. Seulement les prêtres, hein, pas les autres. Les prêtres peuvent rentrer. Mais comme vous êtes pécheurs, vous ne pouvez pas entrer en ma présence. Donc, pas dans le lieu très saint. Du moins, et c'est tout ce que le Nouveau Testament nous dit, pas encore. Parce que ce que j'ai annoncé n'est pas encore venu. C'est quoi qu'il a annoncé? C'est la venue du Messie, qui va ouvrir la voie. Jésus, lui donc, est grand prêtre, mais pas selon l'ordre lévitique, de tribu de Lévi. Mais selon l'ordre de Melchisédek. Ce qui signifie qu'il est grand prêtre pas pour un temps limité. Hein. Aaron est mort à un moment, il y a eu un successeur, Jésus, c'est pour l'éternité. C'est ce que signifie cette notion, cette référence à l'ordre de Melchisédek. Alors pourquoi l'auteur d'Hébreux emploie la référence à Melchisédek? Mais justement parce qu'il apparaît en Genèse 14, verset 18. Et on nous dit qu'il était roi de Salem. Oui, roi de Salem. La plupart des théologiens pensent que c'était le nom que portait à l'époque Jérusalem, Yerushalayim, bon, Salem, qui en hébreu se dit Shalom. Donc il était roi de Salem. Donc Salem, donc roi de paix, Shalom. Mais il était aussi prêtre. Puisque il combinait la double casquette, si je peux dire ça comme ça. Il était roi et prêtre, ce qui n'arrivait jamais dans l'Ancien Testament. Hein. Vous étiez roi, vous étiez ou prêtre, mais jamais les deux. Pourquoi? Parce que le seul qui sera les deux, c'est le Messie. Mais ce gars-là l'est déjà. Alors ça, on peut déjà se mettre un énorme point d'interrogation. Hein. Donc, il est roi et prêtre. Première indication. Comme le Christ sera roi et prêtre sur son trône. Le texte de Genèse aussi précise qu'il est roi de justice, parce que c'est la signification de son nom. Melchisédek signifie littéralement roi de justice. Des mots qui sont annoncés par les prophètes dans l'Ancien Testament comme ayant une référence directe avec le statut, la nature et le ministère du Messie. Une autre indication qu'on tient de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est que Melchisédek est sans père, je cite, hein, sans mère, sans généalogie, il n'a pas d'ascendant, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Alors que l'Ancien Testament, il est rempli de généalogie. Les Juifs, ils adorent ça, parce qu'ils ont besoin de savoir d'où ils descendent, de quelle tribu ils descendent, etc. Eh bien, Melchisédek, il n'a pas de généalogie, il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. C'est quand même un peu étrange. Hein. Et il tombe là, en Genèse 14, comme un cheveu dans la soupe. Hein. On n'en parle pas avant, on n'en parlera plus après. Vraiment bizarre. Melchisédek, on va le dire comme ça, est un type du Christ. Donc qui apparaît subitement au milieu d'Israël, sans descendre d'Aaron, le grand prêtre, qui n'appartient pas à la tribu de Lévi, qui ne peut pas hériter de la sacrificature, donc il ne peut pas devenir grand prêtre. Et qui, par la puissance de sa résurrection, demeure, au contraire, notre grand prêtre. Je rappelle quand même que Jésus, il est de la tribu de Juda, de la tribu royale. Il n'est pas de la tribu de Lévi. Logiquement, il ne peut pas hériter de ce rôle. Et pourtant, Dieu va le choisir, lui. Et à la différence d'Aaron, c'est très intéressant, c'est par sermon, on a vu le texte, que Dieu confère directement à son fils la prêtrise selon cet ordre de Melchisédek. Donc, cette prêtrise n'a pas été confirmée par la voie habituelle établie en Israël, qui est la voie de la succession. C'est dans la lignée de Aaron, eh ben, le premier fils aîné deviendra grand prêtre et ainsi de suite. Pas pour Jésus. C'est Dieu qui le nomme, qui le choisit. Par serment. Il lui dit, on l'a vu le texte, Psaume 110, tu es grand prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Donc c'est par serment, un serment de Dieu, on sait ce que ça vaut au niveau poids, que la prêtrise lui est dévolue. Donc cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré et il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. » C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance, forcément, puisqu'elle est éternelle. Elle ne peut pas être brisée parce que c'est Dieu qui fait le serment. Un autre petit point qui est quand même surprenant dans ce texte de la Genèse, c'est qu'on précise que quand Abraham vient vers ce Melchisédek, Melchisédek offre à Abraham du pain et du vin. C'est quand même bizarre. Hein. Allez relire Genèse 14, hein, vous verrez, 18. Hein. Abraham vient vers Melchisédek, Melchisédek sort de Salem et il lui offre du pain et du vin. Hein? C'est une méchante allusion quand même, non? Enfin, il me semble, hein. On ne va pas tirer dessus non plus, mais bon. C'est difficile de ne pas penser au pain et au vin de la sainte pris en mémoire du sacrifice de la croix. C'est quand même difficile. Un autre point très intéressant et qui fait penser en tout cas à la lecture du texte de Genèse qu'on est en présence d'un personnage comme un hors du commun, c'est que ce fameux Melchisédek va prélever sur Abraham la dîme de tout. Abraham, qui est le patriarche béni par Dieu, hein, il a reçu la promesse de Dieu, eh bien, Abraham va apporter la dîme de tous ses biens à ce fameux grand prêtre et roi de Salem. Et le roi de Salem, en retour, va bénir Abraham. Mes amis, c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Quand je vais voir mon père spirituel aux abbayères, quand il me voit arriver, tous les jours, quand... Sois béni, Dieu te bénisse, Yves. Mais pourquoi? Parce qu'il est mon supérieur. Bon, elle ne répétait pas trop de monde, hein, parce que je n'aime pas ça, mais c'est plein d'amour qui me bénit. Hein. Dieu te bénisse, Yves. Donc, Melchisédek semble être le supérieur d'Abraham. Mais ça signifie quoi? C'est que ce Melchisédek, au niveau du rang de sacrificature de la prêtrise, il est supérieur à Abraham. Abraham, d'où va sortir la tribu de Lévi et tous les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, tous les prêtres. Parce qu'au travers d'Abraham, c'est toute la descendance de celui-ci contenue en germe dans le patriarche qui est béni par Dieu, y compris donc Aaron et tous les Lévites qui vont descendre de lui. Donc le sacerdoce du Christ, puisque c'est de ce Melchisédek qu'il descend, surpasse en excellence celui de tous les prêtres juifs et humains. Il devient donc la base de la nouvelle alliance annoncée par les prophètes et infiniment donc supérieur à l'ancienne alliance. Ce type de Melchisédek exalte donc le ministère unique et totalement efficace et intransmissible du Fils éternel de Dieu. C'est Jésus notre grand prêtre, il n'y en a jamais d'autre. Il ne transmettra pas ce boulot parce qu'il est le seul à pouvoir le remplir. D'accord? Et c'est pour ça que le Nouveau Testament dit que nous sommes prêtres de la Nouvelle Alliance. On a notre grand prêtre, mais nous sommes tous filles et garçons, hein, je précise, mesdames, hein, nous sommes tous prêtres. Donc sur ce coup-là, je vais le lâcher, les catholiques, ils ont un léger souci. Ils ont un léger souci, parce que c'est une caste, les prêtres, à part. À mon avis, ils ont dû arracher le Nouveau Testament et même l'Ancien. Enfin, soit. Je fais ma parenthèse. Je suis protestant, de temps en temps, il faut que ça sorte. Hein. Donc, pour l'éternité, et de toute éternité, il est le Fils de Dieu et entretient donc avec son Père des relations d'une profondeur, d'un amour et d'une perfection que nous ne pouvons, aujourd'hui, en tout cas tant que nous sommes ici, pas imaginer. Un jour, on pourra. On va le voir. On va être dedans. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Il est de toute éternité avec le Père. C'est pour ça que quand Philippe demandera, un des disciples de Jésus demandera à Jésus, mais Maître, montre-nous le Père, Jésus répondra, Philippe, il y a si longtemps que tu es avec moi et tu n'as toujours pas compris, qui m'a vu a vu le Père. Plus clair que ça, c'est compliqué quand même. Jésus est en permanence dans la présence du Père. Et cette position à la droite du trône me fait penser à cette capacité que l'on a dans cette position de susurrer des choses à l'oreille de celui qui siège sur le trône. Oui. Mais j'ai le trône avec Dieu, le Fils à la droite. Bon, lui, il a nouveau fait une connerie, mais bon, c'est un pote, hein, c'est mon frangin. J'ai payé. Oui, mais je sais, Jésus. Oui, mais enfin, je te le dis. C'est Jésus qui a fait quand même. Ça fait quand même la minime fois qu'il me fait le coup, là. Oui, mais bon. Il sera parfait, Père. Hein, tu le rendras parfait. Voilà. Alors, prends patience. Je parle pour vous, moi, ça ne me concerne pas vraiment. Parce qu'il y a une place à gauche. Devinez qui sera à gauche. Rien qu'en disant ça, ça ne sera pas moi. Hein. Bon. Donc, quelle complicité. Enfin, comment je pense à ça, je trouve qu'il y a une complicité extraordinaire. Et puis, on sent poindre aussi toute la richesse ici de la Trinité. Voilà, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Le père jésuite François Varillon, qui est un de mes petits chouchous, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a écrit, hein, je vous encourage en tout cas de lire son immense bouquin « La souffrance de Dieu qui est à tomber par terre ». Voilà. François Varillon dira dans un de ses livres qu'avant la résurrection de Jésus et son ascension auprès du Père, on pouvait parler de la Trinité en disant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais que depuis que Jésus occupe la place à la droite du Père, on ferait mieux de parler de la Trinité en disant le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Alors c'est un peu technique, hein. Il s'est fait quasi excommunier à cause d'avoir écrit ça. Et pourtant je pense qu'il a raison. Avant l'incarnation, le Christ est pur esprit. Il est Dieu. Il s'incarne, il est ressuscité. Il retourne auprès de son Père avec un corps glorifié, parce que ce corps est important pour nous, parce qu'il annonce notre corps glorifié à nous, et l'introduction dans la présence de Dieu de la nouvelle humanité qui aura un corps glorifié. Et aujourd'hui, il est retourné dans son royaume auprès de son Père en ayant ce corps glorifié. Donc, au moment où je parle, il est à la droite de Dieu dans ce corps glorifié. Ce n'était pas le cas avant l'incarnation. Hein? Enfin, je sais bien que ma femme dirait, mais avec quoi tu te prends la tête? Mais moi, ça m'explose. Moi, ça m'explose. Je trouve ça fabuleux. Quoi. Quand j'ai lu ça dans le bouquin de Varillon, j'ai jamais pensé à ça. Autre différence avec les descendants d'Aaron, c'est que, mais ça vous l'aurez compris, Jésus n'a pas renouvelé des sacrifices, ce que devaient faire tous les grands prêtres, tout le temps. Puisqu'il est en même temps celui qui offre le sacrifice en tant que grand prêtre et le sacrifice lui-même, puisqu'il s'offre. Pas besoin non plus, dans le cas de Jésus, de sacrifier pour son péché, puisqu'il n'en a jamais commis aucun. Alors, toutes ces choses, mes amis, nous devons les connaître et les méditer. Rappelez, hein, méditer. Il faut vraiment les méditer. Méditer l'Épître aux Hébreux. Aux joies. Mais le plus important pour nous, dans notre vie de tous les jours, c'est de comprendre encore une fois les privilèges qui sont liés à tout ça. Les privilèges qui sont nôtres, qui sont absolument invraisemblables quand on réfléchit. Dans l'Ancienne Alliance, suivant les cas, parce que c'était parfois le cas, un prêtre pouvait être parfois une oreille attentive aux soucis et aux problèmes des gens, de ses contemporains. Et parfois, je suppose qu'il pouvait dire « Mais je comprends, tu sais, je suis pécheur comme toi, je comprends ce que tu vis, tes souffrances. Ouais. » Parce qu'il était de la même nature qu'eux. Il était pécheur comme eux. C'est extraordinaire dans Jésus, et c'est pour ça qu'il devait s'incarner, c'est qu'on peut aussi tout lui dire. Et bien sûr, à notre niveau, à nous, au niveau Église, on peut et on doit bien entendu partager nos soucis et nos souffrances les uns les autres. Hein. Les trucs difficiles, les trucs sympas aussi, il faut partager. Hein, ça équilibre parfois. Vous pouvez me téléphoner pour dire que tout va bien de temps en temps, ça me ferait plaisir. Voilà. Maintenant, ne me mentez pas, si ça ne va pas du tout, ne le faites pas. Mais il n'empêche que Jésus aussi, on peut lui dire, tout lui dire, avec la certitude qu'il comprend, ça on a du mal à comprendre par contre, qu'il comprend qu'il était tenté à un niveau où nous ne serons jamais tentés, qu'il a souffert comme nous, et je pense même à beaucoup de niveaux plus que nous. À la croix, nous on ne peut pas comprendre. Être séparé pendant 3 heures, être séparé totalement de Dieu, nous ne savons pas ce que c'est. Certains théologiens disent que l'enfer, c'est ça, hein, c'est d'être séparé de Dieu totalement. Donc Jésus, dans ce sens-là, il a vraiment vécu l'enfer. Nous pouvons nous tourner vers notre grand prêtre, qui est, c'est ce que disait le texte, capable d'entendre, de compatir. Parce que le risque, c'est de dire, puisqu'il n'a jamais péché, il ne peut pas comprendre. Alors que tout l'Évangile et tout l'enseignement du Nouveau Testament disent que justement, parce qu'il s'est incarné, parce qu'il a tout vécu, parce qu'il a tout subi, la soif, la faim, la tentation, il peut très bien comprendre nos problèmes. Et dire à Dieu le Père, oui, elle est tombée, mais moi je sais que c'est difficile. Dans l'Ancienne Alliance, j'ai dit, Le principe du temple et du tabernacle, c'est vous êtes des pécheurs et je suis Dieu. Il faut qu'il y ait une séparation. Moi, je ne peux pas être dans la présence du péché sans le détruire. C'est le problème de base de Dieu. Comment je fais pour détruire le mal sans détruire l'homme qui connaît le mal ? Jésus, la croix. Voilà. C'est le plan que Dieu a trouvé pour résoudre cette équation irrésolvable, franchement. Par contre, dans la Nouvelle Alliance, nous qui sommes au bénéfice du sacrifice de Jésus, le message est « Tu es un pécheur éternellement pardonné au travers de l'œuvre accomplie par mon Fils. » Autrement dit, tu n'es plus un pécheur, tu es mon fils ou ma fille, mais tu es mon enfant. Et quoi que fasse, les parents dans la salle, quoi que fasse son enfant, on ne va pas toujours dire « C'est merveilleux ce que tu fais !» Pas du tout. Il y a un moment, on dit « Non, ce n'est pas merveilleux du tout. » Mais notre amour, logiquement, est inconditionnel. Je dis bien logiquement, hein. Mais pour Dieu, il n'y a pas de logique. Il est amour. Quoi que nous fassions en Jésus, il pardonne. Si on demande pardon, hein, n'oubliez pas que la grâce surabonde quand on demande pardon. Pas au moment où on fait l'andouille. Hein. La grâce tombe au moment où on demande pardon. C'est important de préciser. Et je fais référence au premier texte que nous avons vu dans Hébreux. Notre Père nous invite donc en permanence à nous approcher de son trône. Parce qu'à côté de celui-ci se trouve celui qui a tout accompli dans son humanité, pour nous. Autrement dit, il peut tout entendre, il peut tout comprendre, puisqu'il est passé lui aussi par toutes les épreuves et tentations par lesquelles un homme peut passer, mais lui, sans jamais désobéir à Dieu. C'est la raison pour laquelle, en pénétrant dans le sanctuaire céleste, le voile du temple s'est déchiré, le temple ici. Parce que ce temple n'avait d'existence, entre guillemets, légale, qu'à partir du moment où il représentait le désir de Dieu d'accueillir l'homme pécheur et en même temps son impossibilité de le faire. À partir du moment où il accueille, le temple n'a plus de raison d'être. Et c'est pour ça que quelques années après l'Épître aux Hébreux, le temple sera détruit, plus nécessaire, puisque nous rentrons par la prière dans la présence même de Dieu dans le vrai sanctuaire. Essayez de vous imaginer les colonnes, les nuages, la lumière. Donc par sa mort, Jésus nous a ouvert le chemin en nous y précédant. Alors tout ça, on sait, hein. Enfin j'espère, un petit peu quand même. Non, vous ne savez pas, non? Mais pratiquement, je vais terminer par ça. Parce que si ce n'est pas pratique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La théologie, c'est important, la doctrine, c'est important, mais si ça ne se transforme pas au niveau de nos vies pratiques, ça n'a que peu d'intérêt. On attrape au mieux des grosses têtes, puis on penche à côté. Donc Jésus nous invite, quels que soient nos doutes, nos inquiétudes, nos péchés, malheureusement encore, à nous approcher du trône de Dieu, de la grâce de Dieu, nous nous sommes revêtus. Il faut conserver cette image qui est biblique. Hein. Paul le dit aux Corinthiens, vous avez revêtu le Christ. Le terme dans le grec, c'est passer un manteau. Si vous êtes en Christ, vous avez Jésus, hop, tirette, Jesus. Super, hein? Au début, j'ai eu du mal avec ça. J'ai dit, moi, j'aimerais bien qu'il me voit comme Yves, quoi. Qu'il me voit comme Yves. Mais ça aussi, hein, je vous rassure. Mais la dimension, surtout quand on pêche, c'est qu'il voit son fils. C'est comme une sorte de filtre. Il nous voit, je vous rassure, mais à travers le Christ. On a besoin de s'approcher du trône de la grâce. Pourquoi c'est un trône de grâce? Parce que s'il y a grâce, c'est qu'il doit y avoir pardon. C'est pour ça qu'il faut qu'on y soit souvent. Parce que, rappelez-vous, on a besoin d'être purifié, on a besoin d'être lavé. Le pardon est une des dimensions, puisque par la repentance, ben nous sommes lavés et nous sommes purifiés par le pardon de Dieu. Et nous devons aussi, à travers ces expériences de prière, la repentance, il y a deux possibilités de le voir. C'est-à-dire que c'est une catastrophe, je dois encore devoir dire à Dieu que j'ai fait l'andouille, mais il le sait de toute façon. Mais c'est aussi le lieu où vous allez re-expérimenter, malgré ce que vous avez fait, l'amour de Dieu pour vous. Si vous ne vous demandez jamais pardon, vous ne prendrez jamais conscience à quel point il vous aime, en fait. Le trône de la grâce doit devenir un endroit que je connais personnellement, parce que je suis un habitué des lieux. Si vous me dites, je ne connais pas, ce n'est pas nécessaire, il y a un souci. On doit forcément devenir un habitué des lieux. Bon, si on doit transposé ici, vous imaginez le papa dans son bureau, toc toc, 8h01 du matin, papa, j'ai fait une connerie, ben, je t'écoute, hein. Ben, je te pardonne, chouchou, allez, passe une bonne journée. 8h02, toc toc, ouvre la porte, j'ai refait une connerie, voilà. Vous imaginez les journées, 24 heures, les journées quand même. Hein? Il y a du monde dans le bureau, hein? Il y a vraiment du monde. Nous avons donc quelque part à prendre l'habitude d'avoir le cœur dans les lieux célestes. On passe trop de temps ici-bas, notre cœur. Par contre, si notre cœur doit être là-haut, le lieu de notre sacerdoce, de notre ministère de prêtre, c'est ici-bas. Hein? Parce que si le grand prêtre, on sait ce qu'il fait, non, j'espère que c'est plus clair pour vous, à quoi Jésus passe ses journées, plutôt, je le dis dans ce sens-là. Mais nous sommes prêtres, et les prêtres d'Ancienne Alliance, il y avait le grand prêtre, mais les prêtres, ils faisaient quelque chose aussi, ils avaient un boulot. Nous avons un boulot aussi, et c'est ici-bas qu'il faut le remplir. Vous êtes devenu prêtre, et vous avez une fonction à remplir, parce que vous êtes prêtre. Et c'est quoi la fonction ? Romains 12, 1. Je vous implore par les compassions de Dieu, donc parce que Dieu vous a aimé de cet amour-là, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous ne ferez rien d'extraordinaire en étant prêtre, hein, et en offrant vos vies, toute votre vie, en sacrifice vivant. C'est ça que fait un prêtre. Et ce sera raisonnable. Vous ne ferez rien d'extraordinaire en faisant ça. Hein. Ça fait peur, hein, non ? Moi, je trouve que ça fait peur. Et nous ne pouvons remplir, vraiment, offrir notre vie en sacrifice pour Jésus. Nous pouvons le faire qu'en étant un témoignage vivant de l'amour et de la grâce de Dieu offerte ou offert au monde. Heureusement, notre grand prêtre nous aide à le vivre, justement, en priant et en intercédant pour que le Père, à travers son esprit, nous aide à grandir et à devenir de plus en plus ce prêtre qui rend témoignage de son amour pour son Seigneur. De manière à ce que notre engagement ne faiblisse pas. Parce que ça peut être long la route. Hein. On peut avoir des fatigues. Donc, je termine vraiment. Il nous a quittés physiquement. Ben oui. Mais c'est pour mieux nous aimer et travailler dans nos vies. Il faut être convaincu de ça. Et quel est celui qu'il a envoyé pour travailler dans nos vies ? L'Esprit Saint. Mais ça, c'est pour dimanche prochain, parce que c'est dimanche prochain à la Pentecôte. C'est pas aujourd'hui. Hein. Une fête à la fois. Hein. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.